Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Bienvenue au 98.5. Je commence ce matin par le défi du ministre de la Santé, Christian Dubé. On pourrait dire qu'il y en a plusieurs, mais hier, il nous a présenté son projet de loi pour, comme on dit poliment, encadrer et ultimement se débarrasser des agences privées de placement. Et on a vu la courbe quasi exponentielle des dépenses liées à l'embauche de gens qui proviennent de ces agences en raison de la pénurie de main-d'œuvre. Alors, c'est une période, comme on dit, de sevrage qu'il se donne. Peut-être 3 ans, peut-être un peu plus. Il faut tenir compte de certaines réalités. Mais c'est un plan où il y a quand même des mesures précises. D'abord, on va fixer le taux horaire maximum pour éviter certains abus. On va également donner et s'assurer, quoique ça existe déjà, mais là, on le renforce, d'offrir les quarts de travail les plus plates, la nuit, la fin de semaine, Noël, puis ces affaires-là, aux gens qui arrivent du privé. Et s'assurer aussi que si on ne respecte pas la loi, ben il y a des amendes qui sont prévues, et ça inclut les employeurs, les établissements de santé. Ça veut dire aussi qu'il faut négocier avec les syndicats, entre autres l'AFIC. Et les négos entre Québec et l'AFIC sont jamais simples. Et il y a toute la question de la souplesse pour réintégrer des infirmières, par exemple, qui ont quitté le réseau de la santé, qui voudraient revenir. Combien de cas dont je vous ai parlé, qui avaient quitté, qui sont revenus quelques mois plus tard, puis qui devaient reprendre au bas de l'échelle. Puis il y avait, disons, un mur de briques et de béton autour de leur retour au travail. Donc c'était assez compliqué. Là, la grande question depuis hier, merveilleux comme idée, est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est réaliste? Et je veux juste rappeler que l'objectif étant de combler des postes, d'attirer des gens dans le réseau, de les garder dans le réseau, de leur offrir des conditions de travail qui vont faire en sorte qu'ils n'auront pas envie de partir. Ça veut dire, là, fini les agences, et terminer le temps supplémentaire obligatoire. C'est pas un défi, je veux dire, c'est l'Everest. Puis ajouter à cela les autres enjeux en santé. Alors, est-ce que ça va marcher? On comprend, mais entre-temps, on sent beaucoup de scepticisme. Puis là, le syndicat n'est pas content. Déjà, là, on peut lire les propos ce matin, M. Dubé a raté, il avait une chance unique, etc. Puis vous avez les agences de placement qui nous bombarde en disant, il peut bien dire ce qu'il veut, mais ils auront toujours besoin de nous. Et on sait bien que les conditions de travail, c'est pas pour rien que les gens quittent le réseau. Puis rappelez-vous le sondage qui tombait tellement bien cette semaine, où on disait, de toute façon, ils auraient quitté votre réseau de santé publique, puis ils auraient fait autre chose dans la vie s'ils n'étaient pas dans des agences. Alors, peut convenir que c'est un enjeu quand même extrêmement important. Puis ça arrive au moment où on apprend ce matin, grâce à la sortie des 2 fédérations de médecins, les médecins spécialistes, les médecins omnipraticiens, une lettre qui met le projecteur sur ce qui se passe dans les laboratoires. Vous savez que Québec a créé il y a quelques années OptiLab. OptiLab, c'était de centraliser dans un certain nombre de laboratoires les analyses d'échantillons. Les 2 présidents de fédération, le Dr Oliva et le Dr Amiot, nous disent qu'il y a des écarts pour ce qui est des traitements, des analyses et surtout l'obtention des résultats. Et on donne un exemple. Vous envoyez un échantillon pour avoir un diagnostic de cancer. Et ça va dépendre de l'endroit où votre échantillon va se retrouver. Si vous êtes au CHUM, puis quand je dis le CHUM, il y a d'autres hôpitaux qui se rattachent au laboratoire du CHUM, ça peut prendre à peu près 24 heures. Si votre échantillon se ramasse à l'hôpital de Verdun, ben ça peut prendre 4 semaines. Puis si votre échantillon se ramasse à Maisonneuve-Rosemont, ça peut prendre 2 mois. Là, je parle de cancer. Et on va parler avec 2 médecins ce matin, le docteur Weiss que vous connaissez, le docteur Blais, qui dit entre autres que dans aucun pays au monde, ce genre de délai est considéré comme acceptable. Alors, je voyais ça ce matin toujours avec la perspective de ce que le ministre a annoncé hier. Les listes d'attente débordent. On a eu des cas cette semaine, alors que la machine bloque l'octroi de permis pour ouvrir des blocs opératoires, avoir du personnel, soigner les patients, des gens qui attendent, qui attendent, qui attendent. Et là, vous avez des laboratoires qui non seulement fonctionnent à vitesse variable, mais en plus, et c'est arrivé à l'hôpital Sainte-Marie, où on a décidé d'envoyer une petite note au GMF en leur disant de ne plus transmettre d'échantillons de laboratoire. Non seulement il y a des délais, mais en plus, on dit non, savez-vous, on a des quotas ici, on n'en prend plus. On va recevoir donc le Dr Weiss tantôt, le Dr Blais et le ministre Christian Dubé qui va venir nous expliquer également sa stratégie. Des informations de Radio-Canada sur l'aide médicale à mourir. Extrêmement populaire au Québec. Plus de 7 % des décès découlent de l'aide médicale à mourir. Ça veut dire que plus de 5 000 Québécois, Québécoises pourraient demander et obtenir l'aide médicale à mourir. Il y a 5 ans, c'était à peu près 1 000 personnes. Et il y a la Commission des soins de fin de vie qui lance une consultation auprès de ses membres. On veut savoir pourquoi c'est si populaire l'aide médicale à mourir. Quand vous regardez la tendance au prorata de la population, le Québec est maintenant devant les Pays-Bas et la Belgique, considérés comme des pays assez précurseurs en ce qui concerne l'aide médicale à mourir. Plusieurs explications sont possibles. Bon, il y a un vieillissement de la population, c'est sûr que c'est un élément. Les gens savent que l'option existe. Il y a probablement moins de craintes. Et je dirais que la notion de religion est importante. Dans beaucoup de communautés, c'est un sujet tabou. Donner la mort, même si la personne le demande, c'est pas acceptable aux yeux de plusieurs. Et dans certains pays, ça serait impensable. Et on sait que le Québec, de façon générale, a tassé pas mal la religion dans les dernières années. Puis même, on peut dire depuis 40 ans, 50 ans. Fait qu'on a peut-être moins de bibites religieuses dans la tête, moins de, je dirais, de réserves. Et ce qu'on veut surtout, c'est d'éviter de souffrir, malgré les dérapages qu'on a vus concernant des cas de gens qui n'ont pas eu droit à des soins adéquats parce qu'ils n'étaient pas au bon endroit puis parce qu'ils manquaient de personnel, comme le cas de Mme Simard, la veuve de Robert Bourassa, qui était à l'hôpital Sainte-Marie. Il semble qu'il y a un certain nombre d'enjeux, je comprends mieux aussi, à cet hôpital, malgré la sortie la semaine passée, des professionnels. Et je pense que c'est important. Puis ça arrive au moment où on a eu ce rapport à Ottawa, où on recommande, c'est pas un rapport unanime, là, il y a la dissidence, notamment des conservateurs, où on propose d'élargir l'aide médicale, et c'est très, très controversé, là, à des mineurs qui souffrent d'une maladie incurable, et on les présente comme étant des mineurs qui sont matures, et aussi à des gens qui ont des problèmes de santé mentale graves. Là, on ne parle pas d'une petite dépression, là. On parle de gens qui, depuis des années, sont suivis et que les traitements ne donnent pas de résultats. Et troisième volet, c'est de permettre aux gens qui ont des maladies génératives d'inscrire, alors qu'elles sont lucides, les conditions de fin de vie. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire à tel stade de la démence, à tel stade de l'Alzheimer, ben, j'aimerais pouvoir obtenir l'aide médicale à mourir. Alors, est-ce qu'on va modifier la loi? Est-ce que ça va passer l'état des tribunaux? Et si tout ça se confirme un jour, le Canada serait sans doute le pays le plus libéral au monde en matière d'aide médicale à mourir. Voilà pour ce volet. On va revenir sur la tragédie de Laval, donc une semaine après que ce chauffeur fou ait foncé en direction d'une garderie, tuant deux enfants, en blessant plusieurs autres. La presse nous dit ce matin que le chauffeur en question, le Saint-Amand, devait se marier dans un mois. Qu'il a une femme, des enfants, une maison, une auto. Et la personne qui parle, c'est celle qui devait être son témoin, donc un ami de la famille, qui, comme tout le monde, ne comprend pas ce qui s'est passé. Et il s'était, semble-t-il, marié de façon religieuse, mais pas trop dans quel contexte, ça n'avait pas une valeur légale. Mais c'est tout ce qu'on sait, là. On n'a pas d'indice, on ne sait pas qu'est-ce qui l'a amené à faire ça. Plusieurs ont parlé d'une enfance difficile au Cambodge. Une enfance qui a été marquée par des événements, semble-t-il, d'intimidation, de violence aussi. Mais on peut tourner autour, là, mais ça vient pas, disons, donner un éclairage très, très pertinent sur ce qui est arrivé il y a une semaine. Puis, je vais vous le dire franchement, c'est sans doute un ami très proche, là, mais j'ai toujours beaucoup de réserves quand on nous présente quelqu'un qui a posé des gestes comme ça en disant « on comprend pas, c'est... il était follement amoureux ». C'était pas un couple démonstratif, mais ils avaient une vie extraordinaire, puis tout allait bien. On ne sait pas comment ça se passe dans le monde. Pis on ne sait pas, derrière les portes des bungalows, comment les gens vivent leur vie au quotidien. On ne sait pas. On peut présumer, on peut projeter une image, mais je me méfie toujours de ce genre de conclusion. Pis c'est peut-être vrai qu'elle allait se marier, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je reviens aussi sur le dossier du hockey junior. Donc hier, évidemment, la balle a continué de rouler. La Ligue junior majeure du Québec va aller s'expliquer. Et hier matin, on a eu un certain nombre de cas. Est-ce que c'est de la violence au sens de la loi? Donc, c'est certainement dégradant, là, se mettre des biscuits dans l'anus comme forme d'initiation. Quand... Moi, j'ai été un petit peu, je dois vous le dire, assommé. Je reçois des courriels d'auditeurs qui ont joué, là, puis qui m'expliquent la pratique des raisins. Puis qu'il fallait courir tout nu avec des raisins, toujours dans l'anus. Il y a comme une fixation au Québec là-dessus. Là. Et après ça, manger les raisins. Puis là, M. Courteau m'a dit, non, ça, j'ai pas entendu parler de ça, mais j'ai entendu parler des biscuits. La ministre dit que c'est dégradant. Elle a des questions à poser. Et là, on invite les joueurs de hockey ou des gens qui ont été témoins à porter plainte. Quand c'est un acte criminel, même si c'est arrivé il y a 15 ans, 20 ans, là, si vous avez été torturé, si vous avez été victime d'agression sexuelle, de voie de fait, vous avez le droit de porter plainte. Je comprends qu'il y a des codes de déontologie. Je comprends que depuis peut-être les dernières années, c'est fort différent. Mais quand même, il y a une possibilité pour vous de le faire. Puis ce matin-là, le Journal de Montréal rapporte le cas d'un entraîneur des élites de Jonquière. Et c'est une équipe 3A, donc ce qu'on appelait le midget 3A. Là. Il s'appelle l'entraîneur en question, puis semble-t-il qu'il est assez, comme on dit, cocky, Arnaud Dubé. Et là, il engueulait ses joueurs, traitait ses joueurs, et je cite, de fif. Et il leur disait de se blesser pour montrer à quel point ils étaient déterminés pour gagner. Autrement dit, du harcèlement, il y a 5 joueurs qui ont porté plainte. Ça a été entendu par un comité qui considère qu'il a tenu des propos inacceptables, que ça pouvait pas être toléré sous aucun prétexte. Mais comme c'est une espèce de comité, disons, sans vraiment de pouvoir, ben on lui recommande de suivre des heures pour gérer sa colère puis apprendre à mieux se contrôler. Alors, c'est dans le Journal de Montréal. Toujours dans le Journal de Montréal, l'histoire du prof proxénète qui a pu enseigner pendant 20 ans à Ozias-le-Duc à Saint-Hilaire. J'ai reçu depuis hier pas mal de messages. Je suis pas certain que la version donnée par le Centre des services scolaires des Patriotes est tout à fait la vérité. J'ai, disons, des interrogations. J'ai pas de conclusion. Mais quand on nous explique que le gars en question... D'abord, pendant 20 ans, on l'a échappé. On n'a pas fait à l'époque les vérifications. Puis on nous dit, ben, une erreur humaine, ouais. Depuis combien de temps le centre de services scolaires sait que ce gars-là a des problèmes? Il s'appelle Serge Dupuis. Des problèmes de comportement, des problèmes d'attitude. Combien de profs ont levé la main en disant « il y a quelque chose qui marche pas ». Quand un prof a une attitude macho dans une classe, quand il dit, je cite, au gars, quand vous aurez 18 ans, les boys, on s'en va aux danseuses, une tape dans le dos. Puis quand il dit aux filles, quand vous aurez 18 ans, on va pouvoir s'amuser avec vous autres. C'est un prof, là. Puis c'est un pimp, c'est un proxénète. Un gars qui crie, d'après ce que je comprends. Pas certain là, que c'est arrivé. Puis il a fait ça pendant 20 ans. Puis personne a fait quoi que ce soit. Puis ça a pris supposément une plainte. Et moi, ce qu'on me dit, c'est que on a muselé beaucoup de gens. Tu sais, l'espèce de devoir de loyauté qu'on nous brandit à chaque fois en santé, en éducation, parlez pas aux médias, dénoncez pas ça. Puis j'ai eu beaucoup de ces courriels de gens qui regrettent aujourd'hui de ne pas l'avoir dit à l'époque. Ils l'ont dit à l'interne, mais qui auraient dû bouger davantage. Tantôt, je parlais de religion. J'attire votre attention ce soir sur l'émission Enquête. Et on revient sur le séjour en orphelinat de deux membres de la famille de René et Nathalie Simard qui témoignent dans cette émission, qui, parce qu'à l'époque, on est à la fin des années 60, Madame Simard a des problèmes de santé, le père n'est pas capable de s'occuper de la famille, ça déborde, il y a beaucoup d'enfants, et Martin Simard, qui a 10 ans, et Lynn, qui a 11 ans, se sont retrouvés dans un orphelinat dirigé par les petites franciscaines de Marie. Vous pouvez lire dès aujourd'hui là, le résumé du reportage sur le site de Radio-Canada. Mais quand on parle de la rupture des Québécois avec la religion, et pas nécessairement avec la spiritualité, mais avec les institutions, ces deux enfants-là, comme un paquet d'autres, qu'on a envoyés dans des institutions puis en orphelinat, ont subi de la violence verbale, de la violence physique. Ils se sont fait humilier. Ils en ont eu des séquelles et leur témoignage va sans doute, si vous êtes passé malheureusement par là, vous rappeler de mauvais souvenirs. Mais je pense que c'est important, une espèce de devoir de mémoire, de se rappeler qu'il y a eu les orphelins de Duplessis, puis il y a eu tout ça, là. Mais, tu sais, les représentantes de Dieu sur Terre, là, les bonnes petites religieuses, puis les bons petits curés qui en profitaient parfois pour se défouler. Puis après ça, on se demande pourquoi il y a ce mouvement, je vais le dire poliment, de laïcité au Québec. Ça peut peut-être l'expliquer. Et puis, on va surveiller ce qui se passe à Ottawa. Justin Trudeau a bien de la misère avec son caucus quand vient le temps de faire reconnaître le français, notamment avec des amendements qui pourraient faire en sorte que des entreprises fédérales aient le français ou la loi 101 à respecter. Il y a une dizaine de députés, nous dit la presse, qui, à date, pensent à voter contre ce projet de loi. Ça comprend Marc Garneau, ça comprend la députée Emmanuela Lambropoulos, qui a fait beaucoup de vagues, qui paraît, semble-t-il, souvent absente de la Chambre des communes, puis aussi Mark Miller, qui est le responsable du dossier des Autochtones. Alors, on va vous en reparler, évidemment, tantôt.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Si vous passez un test à la demande de votre médecin et que vous attendez le résultat, on découvre ce matin que c'est à vitesse extrêmement variable. Si vous êtes au CHUM, par exemple, si l'analyse se fait au CHUM, c'est 24 heures. Verdun, c'est 2 semaines, nous dit-on, puis dans certains cas, ça peut prendre 2 mois. Il y aurait aussi, à certains endroits, des quotas, c'est-à-dire qu'on refuse de faire un certain nombre d'examens parce qu'on est débordé. Et ça a amené la sortie hier des 2 fédérations de médecins, Fédération des médecins spécialistes et la Fédération des médecins omnipraticiens. Et quand je parle de tests, là, je parle des gens qui attendent, des médecins puis des patients qui attendent pour avoir des résultats de tests qui, par exemple, concernent le cancer. Deux invités pour en parler ce matin. Dr. Carl Weiss, qui, ce matin, est ici à titre de président de l'Association des médecins microbiologistes et infectiologues du Québec. Dr. Weiss, bonjour.
Oui, bonjour, Monsieur Arcand.
Et Dr. Normand Blais, qui est le vice-président de l'Association des médecins hématologues et oncologues du Québec. Dr. Blais, bonjour.
Bonjour.
Je commence avec vous, Dr. Weiss. Peut-être expliquer aux gens, d'abord, le concept qui avait été implanté, le OptiLab. On a fait ça pourquoi? Puis avec le recul des années, qu'est-ce que ça donne?
Alors, OptiLab, c'est quelque chose qui a commencé en 2011. L'objectif, c'était de baisser le coût économique des tests. Donc, c'était au début quelque chose qui avait un impact économique, c'est-à-dire d'avoir plus de tests à un coût moindre au Québec. Au début, je vous dirais, on a eu une collaboration qui était quand même relativement bonne avec les différentes instances du gouvernement. Et puis, ce qui est arrivé, le projet dans les années 2016-2017, on va dire, s'est fonctionnalisé et s'est fossilisé. C'est-à-dire, comme vous le savez, le mammouth de la santé avec toutes ses branches, la réforme s'est un peu perdue dans toute cette structure-là. Et on est allé à une espèce d'hyper-centralisation du système où on a une approche très top-down. Et à ce moment-là, le problème, c'est qu'il y a peu de liberté d'action qui est laissée aux médecins, qui est laissée aux technologistes médicales pour qu'on puisse, en bout de ligne, servir rapidement la population du Québec. Et l'exemple le plus frappant que je pourrais vous donner, c'est qu'on a introduit, par exemple, un système d'informatique des laboratoires, au début dans 4 hôpitaux, la Cité de la Santé à Laval, le CHUM, Sherbrooke et Valleyfield, et de façon unanime, c'est une véritable catastrophe, à peu près à tous les niveaux, on pourrait en parler pendant des heures. Ça ne sert pas la population à l'état actuel. Et malgré toutes les interventions qu'on essaie de faire auprès de cette structure fonctionnarisée, on n'arrive pas à modifier, si vous voulez, le cours des choses. Donc, on est devant un système qui, encore une fois, s'est fossilisé, alors qu'au début, le concept d'OptiLab était un concept qui avait quand même de bons points, qui pouvait être intéressant. Et je vous dirais, le problème aussi, c'est un problème d'hypercentralisation. C'est-à-dire qu'on a coupé le Québec initialement en 11 grappes. Donc, on a créé 11 structures pour s'occuper de tous les laboratoires. À Montréal, on a divisé Montréal en 2. Un exemple qui a montré quand même qu'on a pu changer et dans lequel c'est une direction vers laquelle il faut aller. L'hôpital Sainte-Justine est devenu une grappe autonome, ce qui a été une bonne chose parce que Sainte-Justine a une mission très particulière au Québec comme le centre pédiatrique, je dirais, de référence. Mais on est dans une hyper-centralisation qui nécessiterait de refaire cette structure OptiLab pour mieux servir la population du Québec. Et par exemple, on sait qu'en cancer, ça a des impacts importants et mon collègue, Dr. Blais, pourrait certainement en parler beaucoup plus que moi là-dessus.
Bon, Dr. Blais, prenons l'exemple, ou un exemple pour que les auditeurs et les auditrices comprennent bien. Vous êtes le vice-président de l'Association des médecins hématologues oncologues. Je vais vous voir, vous avez besoin de me faire passer des examens, résultats de tests. Est-ce que je comprends que ça va dépendre où le test va aboutir? Le délai de réponse va être de 24 heures ou de 2 mois?
On parle ici des analyses de biologie moléculaire qui sont faites sur des biopsies. C'est des analyses qui sont importantes pour décider du type de maladie, pour faire un diagnostic, puis qui sont importantes aussi pour décider d'un traitement. Ça fait déjà 10 ans qu'on essaye de développer de la biologie moléculaire au Québec. J'ai déjà été sur la tribune pour sensibiliser la population à cet effet-là. Il y a 2 ans, l'INES a reconnu la valeur de la biologie moléculaire, a établi que le délai raisonnable pour avoir des résultats de test, c'était de 10 jours. On est capable de produire ces résultats dans 10 jours. Il y a certains hôpitaux au Québec qui sont capables de le faire, mais il y a des hôpitaux comme au CHUM qui, pour toutes sortes de raisons humaines, je dirais, ont jamais été capables de produire l'analyse, ce qui fait que même au CHUM, dans la grappe, on est obligé d'envoyer des tests dans d'autres grappes. Puis il y a des centres qui dépendent du CHUM, alors qu'ils nous envoient des résultats ici, qui doivent être envoyés dans un autre centre. Ça crée des délais de livraison, d'emballage, de toutes sortes qui font en sorte que les délais sont très, très variables, comme vous le dites, là, d'un centre à l'autre. Donc, ce qui fait en bout de ligne que des patients qui viennent me voir pour décider quel traitement qu'ils vont avoir pour leur cancer qui est déjà avancé, qui attendent déjà depuis longtemps, bien, je leur dis, j'ai même pas encore tous les résultats qu'il faut pour décider de votre traitement. Alors, c'est extrêmement frustrant pour les médecins, c'est extrêmement frustrant, vous comprendrez, pour les patients. C'est quelque chose qu'il faut absolument changer.
Je vous cite, là, vous avez dit, dans aucun pays, pardon, au monde, ce genre de délai n'est considéré comme acceptable.
Bien, tout à fait, parce que c'est sûr qu'il y a certains pays qui n'ont pas accès, comme nous, à la médecine publique, mais tous les organismes de scientifiques nous disent que la biologie moléculaire, si on revient sur cet exemple-là, c'est très faisable en dedans de 10 jours. J'étais avec un de mes collègues américains hier puis qui me disait que lui, dans son hôpital, c'est raisonnable d'attendre une semaine pour des résultats, mais plus que ça, là, ça devient difficile pour les médecins et les patients. Nous, on s'attend à avoir des résultats dans 2 semaines, 10 jours ouvrables. Puis, il y a certains hôpitaux, là, j'ai des collègues dans d'autres centres qui attendent 6-8 semaines pour ces résultats-là. Là. C'est quand même épouvantable.
Bon, y a un autre enjeu, Dr Weiss, si je comprends bien. Il y a certains laboratoires qui ont des quotas et qui, là, je parle de Sainte Mary, où on a dit aux médecins, on ferme la porte, là, c'est pas le moment de nous envoyer des demandes d'analyse, on les fera pas.
Oui, tout à fait. Alors, Sainte Marie fait partie de ma grappe, puisque moi, je travaille à l'hôpital général juif. On fait partie de la grappe Optilab, donc du CUSUM McGill, si vous voulez. Et donc, Sainte Marie a décidé unilatéralement, à un moment donné, d'envoyer une lettre aux médecins en disant, la fin de semaine, on n'a pas de ressources, on va jeter vos spécimens. Et puis, même, je vous dirais, à l'hôpital général juif, on a fermé le centre de prélèvement durant la période des fêtes, ce qui a créé beaucoup d'autres problèmes. Et c'est le genre d'exemple très pratique, très, très concret, où l'implication des médecins jusqu'à un certain point n'est pas vraiment demandée. Donc, il y a des décisions, encore une fois, de fonctionnariat qui sont prises. Sans aucun, je vous dirais, égard pour les patients ou pour le bon fonctionnement de l'aspect médical. Et puis le problème de tout ça, c'est que quand on implante, par exemple, ce genre de système, sans tenir compte de tous ces avis-là, ça a des impacts sur les fonctionnements des urgences, ça a des impacts sur le fonctionnement des salles d'opération. Comme disait mon collègue hématologue, ça a des impacts sur l'aspect d'avoir des résultats pour les cancers. Donc, nous, on n'est pas du tout contre l'Optilab en tant que tel. On est surtout pour une bien meilleure, je vous dirais, collaboration entre les médecins et les différentes parties du ministère qui en sont responsables. Comme cela a été déjà dans le passé à une certaine époque, et je pense qu'il y a un coup de barre important à redresser à ce niveau-là pour pouvoir offrir à la population du Québec, je vous dirais, les meilleurs soins possibles dans des délais qui soient acceptables. Et je vous donnerai un exemple, on l'a parlé beaucoup durant la COVID, mais vous savez qu'avant la COVID, le gouvernement, enfin le ministère, voulait fermer beaucoup de laboratoires. On s'en est opposé, on s'est battu pour ça. Heureusement, parce que ça nous a permis de garder en place certaines structures et certaines ressources qui ont permis de mettre en place les tests de la COVID dans ces hôpitaux où on prévoyait fermer beaucoup les laboratoires. Alors, imaginez ce qui serait arrivé. Puis un point aussi très important qui n'est pas négligeable, c'est que toute cette structure a découragé les jeunes à vouloir aller en technologie de laboratoire. Donc les programmes dans les cégeps, etc., se sont alignés, si vous voulez. Et là, il y a une pénurie très importante de technologistes qui fait que qui va aller en s'amplifiant et qui est un peu la résultante, si vous voulez, de toute cette structure-là. En plus d'avoir introduit un mauvais système au niveau informatique, et d'avoir cette gestion qui est extrêmement lourde au niveau de la direction de la biologie médicale, qui est cette branche, si vous voulez, du ministère de la Santé, qui s'est hypertrophiée et fossilisée avec les années.
Est-ce que c'est vrai qu'il y a certains échantillons qui sont envoyés aux États-Unis pour obtenir le résultat?
Oui, ça arrive à l'occasion pour des tests très spécifiques, mais je vous dirais, honnêtement, c'est pas la norme. particulière, ça peut arriver. Ce qui est beaucoup plus problématique, je vous dirais, ces derniers temps, c'est qu'il y a un ensemble d'échantillons qui, pour toutes sortes de raisons, sont rejetés. Et par exemple, mes collègues dermatologues au Québec nous en ont fait part, où des échantillons arrivaient dans les laboratoires, et parce que ça ne rencontrait pas des critères très précis en termes, si vous voulez, de est-ce qu'il y avait l'heure à laquelle le prélèvement a été identifié, etc., ils étaient systématiquement jetés, ce qui n'aurait pas dû être fait. J'ai même dû intervenir à un moment donné, avec raison d'ailleurs, parce que c'était des choses qui avaient des impacts importants pour la prise en et la gestion, si vous voulez, de ces patients en dermatologie, dont certains ont des cancers de la peau. Donc, il y a aussi maintenant, à cause du système informatique, on fait de plus en plus de tests, on est obligé de dédoubler des tests, de faire plus de tubes, plus de prélèvements, plus de frottis sanguins, donc ça devient aussi problématique et coûteux.
Docteur Blais, j'aimerais vous entendre sur les solutions. Avec votre expérience, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la performance d'Optilab puis faire en sorte que les résultats, vous puissiez les obtenir plus vite?
Le Dr Vince a déjà identifié beaucoup de problématiques qui sont vraiment d'ordre administratif. Là, moi, j'ai sur Twitter ce matin, j'ai commenté notre article en disant que c'est la machine qui nourrit la machine. Ça fait 3 ans qu'on est pris avec des démarches administratives pour gérer Optilab, mais pendant ce temps-là, nos meilleurs technologues des laboratoires ont été pris justement à refaire des procédures, refaire des analyses, préparer le système informatique, puis pendant ce temps-là, il n'y avait rien qui se passait au niveau des soins aux patients. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que les technologues puissent travailler à faire des résultats, à faire des analyses, mais ne pas être pris dans des structures administratives là, sans fin. Il faut savoir que dans l'organisation du système informatique qui nous a été imposé, on c'est pas venu avec des ressources supplémentaires. On a dû puiser à même nos ressources techniques au laboratoire pour nourrir le système informatique pour qu'il puisse fonctionner dans notre centre, puis sûrement dans les autres aussi au Québec. Là, chaque hôpital devait faire cet exercice-là. Alors, ça a consommé beaucoup d'heures techniques, beaucoup d'énergie de la main-d'œuvre qu'on a qui n'était pas disponible pour faire autre chose. Alors, si on peut se décharger de tout l'aspect administratif, là, on va sûrement pouvoir améliorer les soins aux patients.
Merci beaucoup à tous les deux. Bonne journée. Dr Carl Weiss, qui est le président de l'Association des médecins microbiologistes et infectiologues du Québec, et le Dr Normand Blais, vice-président de l'Association des médecins hématologues et oncologues du Québec. Les défis sont nombreux. Je parlais de temps supplémentaire obligatoire, disparition des agences privées, liste d'attente. Puis là, évidemment, avec ce que vous venez d'entendre, ça fait des enjeux supplémentaires. Le ministre de la Santé est avec nous, Christian Dubé. Monsieur Dubé, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
Je vais commencer avec cette sortie des médecins spécialistes et omnipraticiens. D'abord, est-ce que tout ça est vrai, que c'est à vitesse variable, que dépendamment de l'endroit où tombe le résultat ou en fait l'échantillon d'une personne, c'est 24 heures, 2 semaines ou 2 mois avant d'avoir la réponse?
Ben écoutez, je dois vous dire que je ne savais pas que les écarts de temps étaient si grands que ça. Je vous mets ça en contexte, là. Ça fait quand même 5 ans que ça a été mis en place, le système d'Optilab. Mais je pense que je sais d'où ça sort. Alors, des fois, vous m'aidez beaucoup, puis ça me permet de savoir encore plus ce qui se passe sur le terrain. Mais je vous rappelle, M. Arcan, je rappelle à vos auditeurs que moi, j'ai demandé aux médecins spécialistes, entre autres, là, dans les derniers mois, de me dire à tous les endroits où on devrait améliorer les temps d'attente. Je leur ai demandé ça aux urgences parce que je trouve des fois que les délais de consultation sont trop longs. On a déjà discuté de ça. Alors là, j'apprends des médecins qui me disent, ben une des raisons, c'est les Optilab, c'est-à-dire le temps en laboratoire. Moi, je suis correct, je vais le regarder, mais ça ne m'empêchera pas de regarder les autres endroits que j'ai demandé, les temps de consultation, les temps de rendez-vous, vous me suivez. Alors, si les médecins croient que c'est un élément important, moi, je vous dis, aujourd'hui, là, ces statistiques-là, je les ai pas. Mais vous me connaissez, je vais les demander, puis je vais le regarder. Si les écarts sont si importants que ce que j'ai lu dans les journaux, puis ce que vous dites ce matin, ben, vous me connaissez, je vais le regarder très attentivement.
Mais il y a quelque chose de, je dirais, souvent je parle du mammo de la santé. Puis je vous donne un exemple. Là, j'ai reçu quelqu'un qui m'a envoyé un courriel tantôt. Disons qu'il gravite là-dedans, OK? Mm-hmm. je vous donne un cas, là. Ils ont besoin d'un résultat de test pour un patient qui est en chirurgie cardiaque. Et ils ont besoin, pendant l'opération, d'évaluer des paramètres critiques. Normalement, là, le résultat, tu l'as sur le champ. Ben, ils ont été obligés d'attendre plusieurs journées pour avoir le résultat, alors qu'on était en chirurgie. Ça se passe dans le bout de Québec.
Ça, là, ça n'a pas de bon sens. Quand vous me dites ça, moi, je me souviens, j'ai discuté de ça avec les gens de l'Institut cardiaque à Québec. Puis on avait dit, d'ailleurs, j'avais fait des amendements ou des ajustements, parce que c'est pas dans la loi, là, c'est juste des bonnes pratiques. Quand Hotlab a été créé par l'ancien gouvernement, moi, j'avais dit, écoutez, si c'est ça le cas, qu'on est en chirurgie, puis quelqu'un attend, peut pas attendre des jours. Il faut que ce soit une question de minutes, question d'heures. Alors, on avait donné cette flexibilité-là de garder certains résultats à l'interne. Là, ce que vous me dites, c'est en ce moment, pour des cas de cette urgence-là, on continue d'aller à l'externe, ça n'a pas de bon sens.
Ben, en tout cas, ça a pris 18 mois à être réglé, ce qui montre la lourdeur et la... Je vais vous donner un autre exemple, toujours dans la région de Québec.
Monsieur Arcand, vous pouvez me donner beaucoup d'exemples.
Non, mais... Okay, je vous donne une patiente dans la région de Québec, cancer de poumon avancé, a besoin d'un test. On ne peut pas faire le test dans le laboratoire parce que ce n'est pas dans la grappe Optilab qui est en réflexion sur quel endroit on doit faire le test. Fait que tu as une patiente qui a le cancer, puis eux autres, ils se demandent, on discute, les fonds discutent pour savoir où ça devrait se faire. Ça n'a pas de maudit bon sens.
Bon, c'est sûr que quand vous me donnez ces cas-là, je vous dis, ça n'a pas de bon sens. Moi, ce que je... Tout le monde, là, vous le savez, vous l'avez dit là, pendant que j'attendais l'entrevue, que c'est un gros mandat. Hein? C'est complexe, puis il y a beaucoup de choses à faire. Mais moi, j'y vais sur plusieurs dossiers en ce moment. Ce que j'aime beaucoup de la part des médecins, puis de tous ceux qui lèvent la main pour dire qu'il y a quelque chose de pas correct, moi, j'aime ça. Ça me permet de focusser sur ce qui est important, puis des fois d'ajuster le tir. Ce que je vous dis, j'ai demandé aux médecins, en général, de me dire où eux autres pourraient s'améliorer. S'ils me disent que c'est à des endroits, c'est pas eux le problème, mais que c'est quelqu'un d'autre, je vais le regarder aussi. C'est juste ça, je vous dis.
OK. Juste finir avec ça.
Mais continuez de me le dire.
Oui, non, mais pas être sûr. Mais dans la lettre, ce que je comprends, c'est qu'on vous demande de rendre public le nombre de tests jetés, d'échantillons refusés, détruits, le nombre de patients pour qui on a dû demander un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième test. Ce genre d'informations-là, êtes-vous prêt à rendre ça public?
Ben, j'ai toujours fait, M. Arcand. Là, je vous ai dit tout à l'heure, là, s'il y a une différence aussi importante et que les médecins me disent que ça les empêche de travailler efficacement, connaissez ma passion pour l'efficacité. Alors, donc, c'est sûr que je vais commencer par avoir les statistiques dont vous parlez. Je les ai pas en ce moment. S'il y a quelqu'un qui les a, vous pouvez être sûr que je vais aller chercher. Puis quand j'aurai bien compris, je vais faire comme je fais depuis le début qu'on a mis nos tableaux de bord. Je vais les mettre publics. Parce que savez-vous ce que ça fait quand on les met publics? Ça permet à ceux, vous les appelez les fonfons, là, moi je les appelle les gens du réseau, ben quand ils sentent que la chaleur est sur eux, on dirait que les choses se règlent.
Savez-vous?
On va le faire.
Okay.
Va le faire.
Savez-vous ce que je pense? C'est que les gens du réseau, comme vous les appelez, là, ils savent ça depuis longtemps. Ils n'iront pas vous le dire, ils n'iront pas se vanter. Tant que vous ne poserez pas la question, tant que le ballon ne vous arrive pas, je pense qu'ils vous cachent des choses, mais qu'ils vont pas se précipiter pour vous le dire.
Oui, mais monsieur Arcand, il y a plusieurs intervenants dans ce réseau-là, vous le savez. Hein? Regardez, je vous donne l'exemple. Quand j'ai commencé à demander aux médecins de mettre dans le tableau de bord public ce qu'on appelle le CRDS, c'est du jargon, là, c'est le centre de rendez-vous.
Ouais.
Le temps que ça prend entre un omni qui fait le premier rendez-vous puis qui dit « allez voir un spécialiste ». On sait que c'est un gros problème. En ce moment, là, il y a 800 000 personnes qui sont en attente d'un rendez-vous d'un médecin. Alors, j'ai dit au médecin, vu que c'est un gros problème, je vais mettre ce tableau de bord-là public d'ici quelques mois. Vous allez me dire où vous pouvez intervenir là-dedans. Est-ce que vous êtes capable de diminuer ces temps d'attente-là? Alors, c'est un petit peu pour ça que je vous dis, oui, c'est une bonne idée de mettre ça public, mais ça fait réagir le réseau. Alors, aujourd'hui, si j'apprends que la question, il y a des grands écarts entre les tests qui pourraient être faits dans le public à l'intérieur, ben là, je vais le regarder, puis
Oups. Êtes-vous toujours là?
Ah, moi, je suis toujours là.
Ah non, OK, c'est parce que ça a coupé. OK, parfait. Ah. Je vous parle de votre projet de loi maintenant.
Je suis à Québec aujourd'hui. Okay. Je ne suis pas aussi proche que vous d'habitude.
le projet de loi déposé hier, là, on comprend l'objectif, il y a des mesures claires, les pires quarts de travail aux gens qui viennent des agences, des amendes qu'on, si on respecte pas. Et l'objectif, c'est de se sevrer, je dirais, puis de se débarrasser de ces agences. Monsieur Dubé, j'ai regardé ça, là, puis j'essaye d'avoir la plus grande ouverture d'esprit possible, mais je me dis, là, on manque de personnel. OK. On veut plus de temps supplémentaire obligatoire, puis ça, c'est bien correct aussi. Là, on veut se débarrasser des agences. Êtes-vous capable de tout faire ça? Puis êtes-vous capable que ça arrive en même temps, puis d'augmenter et améliorer, en fait, les conditions de travail? Vous n'aurez pas le choix, à un moment donné, d'en faire du TSO s'il n'y a plus de monde d'agences?
Bon. J'expliquais à des amis hier soir là, qui me posaient la même question de vous. Comment on est capable de tout faire ça en même temps? J'ai donné peut-être un parallèle très simple, simpliste. Là. J'ai dit comme un casse-tête. Si on essaye de mettre toutes les pièces en même temps dans un casse-tête, ça ne marche pas. Il faut trouver les coins, il faut trouver les bords, puis après ça, on trouve un milieu. Moi, ce que je vous dis, là, le petit projet de loi que j'ai donné hier, il fait partie de mon plan santé, puis c'est un des éléments du casse-tête. Okay? C'est pas avec ça que je vais aller récupérer les 10, 15 000 infirmières que j'ai besoin dans le réseau. Mais c'est un des éléments. Moi, ce que je voulais avec le projet de loi hier, c'est deux objectifs. Je voulais rétablir l'équité entre ceux qui ont resté dans le réseau et ceux qui ont quitté dans le réseau. Vous l'avez dit, pour des raisons, des horaires défavorables, etc. Mais en ce moment, il y a uniquement 2500 infirmières qui sont dans les agences de santé. Je vous dis que j'en ai besoin de 10 000. C'est pas juste ça qui va régler mon problème. Il y avait une question d'équité. Alors ça, pour moi, ça va être clair maintenant. On l'a dit, on veut s'affranchir des agences. J'ai donné un délai raisonnable, qui est 3 ans, plus rapide dans certaines villes. Mais je vous ai dit, ce que je veux améliorer du réseau de la santé, puis ça commence à fonctionner, je me suis donné un horizon de 2025. Demandez-moi pas si je vais réussir ça la semaine prochaine. Donc, rétablir l'équité, c'était mon premier objectif. Le deuxième objectif, qui est tout aussi important, puis j'ai une collaboration incroyable de Mme Lebel au Trésor, les gens que je veux récupérer et surtout retenir, parce qu'il ne faut pas que les gens quittent le réseau, il faut que je leur donne des conditions pour qu'ils aient plus de goût de partir. Et ça, c'est pas juste moi qui travaille là-dessus. Là. Mme Lebel travaille à donner une meilleure convention collective, plus flexible, avec toutes les choses qu'on a parlé depuis des années. Alors ça, pour moi, c'est pas juste moi. Là. Je ne suis pas tout seul là-dedans, puis je me sens pas tout seul du tout. Je travaille avec tous mes collègues ministres pour qu'on puisse rebâtir le réseau. Fait. N'inquiétez-vous pas pour moi.
Non.
On va y arriver.
Mais là, vous me parlez de gens souples et agiles. Là, je vais vous parler de gens lourdeaux et immobiles. C'est-à-dire, d'un côté, l'appareil, le mammouth. Et on a eu un exemple cette semaine avec ces médecins dans les Laurentides qui veulent bâtir une clinique. Liste déborde, puis ils attendent leur permis, puis ça retarde leur projet de construction. Puis là, tu dis, mais coudonc, ils veulent pas que ça marche.
Ben, écoutez, prenons la question de la clinique dans les Laurentides. Là. Bon. Moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, oh, on a un problème là, parce que effectivement, l'an dernier, on a réalisé qu'il y avait beaucoup de demandes de permis qui nous venaient de différentes cliniques qui n'étaient pas dans nos priorités. Je dois vous avouer que quand quelqu'un me demande l'ouverture d'une clinique esthétique, là, je ne rentrerai pas dans le détail.
Non!
Non, mais attendez, laisse-moi terminer. On a dit, ça, là, ça nous fait mal pour rien, puis ça vient chercher des infirmières qu'on n'a pas. On n'a pas besoin de perdre. Alors, on avait dit pas de nouveau permis. Là, j'apprends que dans le processus d'analyse de ces cliniques-là, il y en a une qui est en obstétrique. Ça n'a pas de bon sens. Arrête. Donnez-moi le permis pour ceux qui sont en obstétrique. Vous me suivez? C'est sûr qu'à chaque fois, y a-t-il quelqu'un qui a manqué de jugement? Y a-t-il quelqu'un qui a été peut-être plus lent? La réponse, c'est oui. Quand je l'apprends, ben j'agis. Alors là, j'avais demandé comment le plus rapidement possible vous pouvez donner. On me dit que c'est la semaine prochaine. Bon, écoute, voilà.
OK. L'autre bord, la FIC et autres syndicats, là. D'abord, hier, vous avez vu, l'accueil est assez glacial, rendez-vous manqué, etc., etc. Régulièrement, j'ai des courriels d'infirmières qui ont quitté, qui disent « on reviendrait bien, mais c'est de repartir à zéro, puis c'est pas vrai qu'on va repartir à zéro, puis bon. » Faites-vous confiance à la FIC pour avoir une ouverture d'esprit et faire en sorte d'être moins rigide?
Oh, que c'est une question plantée, ça, M. Arcand. Je vais essayer de vous répondre correctement pour garder tous les canaux ouverts. Je vais dire deux choses. Premièrement, c'est l'AFIC, entre autres, qui m'a demandé le projet de loi que j'ai déposé hier. Je trouve un peu leur réaction timide pour quelque chose qu'on a donné, qu'ils nous ont demandé. Je vais juste dire ça. Okay? Deuxièmement, ce que Mme Lebel me dit, c'est que l'AFIC ne vient pas aux tables de discussion de la convention qui vient d'être commencée. Moi, je vous dirais, s'ils veulent des changements à la convention, s'il vous plaît, je vais dire aux infirmières, là, je parle aux infirmières, je parle pas aux syndicats. Je demande aux infirmières de dire à leurs syndicats d'aller s'asseoir à table. C'est juste ça que je vous dis ce matin.
Comme dirait l'autre, c'est mal parti.
Comment?
J'ai dit c'est mal parti.
Ben non, je vous dis qu'on vient de commencer un processus, là. Ils nous disent qu'ils veulent changer les choses. Moi, je leur donne un projet de loi qui dit exactement ça. On va arrêter la MOI, ce qu'on appelle la main-d'œuvre indépendante, les agences. Mais en même temps, j'ai besoin d'une nouvelle convention pour retenir et attirer les gens et vous asseoir à table. Madame Lebel vous a invité. C'est ce que je vous dis.
OK. Dernier volet. Beaucoup de médecins n'ont pas vraiment apprécié quand vous avez dit allez donc opérer, puis tu sais, soyez plus productifs, puis bon. Moi, les médecins qui m'écrivent, ils me disent, écoute bien là, je veux opérer, j'ai pas de priorité opératoire, j'ai pas de staff, j'ai pas de salle, le monde est parti à 3h15, je peux pas opérer. Fait que quand le ministre vient me dire, va donc opérer, là, puis que vous avez dit, j'irai pas opérer à leur place, ils se disent, OK, donne-moi des salles, puis donne-moi du personnel, tu vas voir, je vais en opérer du monde.
Écoutez, mon rôle, là, c'est pas d'identifier des coupables, c'est de trouver des solutions. Quand j'ai dit ça, puis je vais vous redire la même chose. Je suis très conscient qu'il manque du monde, puis qu'il y a des salles d'opération qui sont pas ouvertes. Écoutez, je suis conscient, là. Je suis dans le réseau toutes les semaines. Il y a une chose que je dis, par exemple. Il y a des spécialités où, par exemple, qui sont peut-être pas au rendez-vous pour aider avec le peu de ressources qu'on a. Je pense, là, je vais faire attention, là. Est-ce que tout le monde rentre à l'heure qu'il devrait le matin pour opérer? Est-ce qu'on suit les listes de priorités? Il y a des endroits qui le suivent, il y a des endroits qui le disent. Moi, j'ai demandé de mettre une priorité sur les chirurgies qui sont en retard de plus qu'un an. C'est fait à des places, c'est pas fait à d'autres places. Ça n'a rien à voir avec le volume. Ça a à voir avec est-ce que chacun des établissements met en ce moment la priorité sur les chirurgies qui sont en retard de plus qu'un an. C'est pas fait partout. Alors moi, ce que je dis aux médecins, pourquoi les meilleures pratiques, on les fait pas partout? C'est juste ça que je dis. Alors, je pointerai pas personne. Monsieur Oliva sait exactement de quoi je parle. Je vais me rasseoir encore avec lui la semaine prochaine parce que j'ai regardé là, l'espèce d'échéancier qu'ils m'ont dit, puis j'ai dit, j'aime pas ça. Oui, il manque du monde, mais ceux qui sont là devraient s'entendre sur les priorités. C'est ça que je vais faire dans les prochains jours.
OK.
Une journée à la fois.
Ah, écoutez, vous avez une belle philosophie parce que je me dis tout le temps, un jour, lui, va se lever, va dire bye. Parce que, tu sais, à un moment donné,
Non, je ne suis pas rendu là, pas du tout. Puis au contraire, j'ai des signes. Regardez, là, quand je regarde, hier, j'avais une entrevue à la télé, puis les gens commencent à me montrer que mon tableau, il est plus vert que rouge. Oh, ça, c'est encourageant. Un petit succès à la fois. C'est ça qui nous donne du gaz, mais de l'électricité pour continuer.
Mais en terminant, vous savez ce que je pense profondément, c'est ce que le politique nous dit, le politique le croit. Quand vous me parlez d'aller vers des centres privés, des cliniques privées pour opérer des gens sur le bras du public, là, puis ça, c'est parfait. Moi, je pense qu'il y a de la résistance à l'interne. Je pense qu'ils vous disent pas tout. Je pense qu'ils vous cachent des choses, puis je pense qu'ils bloquent ou qu'ils font traîner certains de vos projets.
Vous savez? Vous avez probablement raison, mais le fait que maintenant, on ait des détails, on ait de l'information, quand je vois pas baisser le nombre de chirurgies, ben là, je suis capable de m'asseoir avec les personnes en question dont vous parlez, puis de dire pourquoi ça arrive pas quand vous opérez 30 000 chirurgies par mois. Comment ça se fait que vous en mettez pas plus sur les plus qu'un an? Puis là, moi, je le regarde par région, puis je dis comment ça se fait que telle région a réussi, puis telle autre le fait pas. Ah ben là, je peux pas rentrer au niveau de tel ou tel médecin. Pourquoi? OK. Ben, c'est comme ça qu'on va le régler le problème. En ayant de l'information, en étant transparent, puis en ayant une discussion correcte.
M. Dubé, merci. Bonne journée.
Je vous souhaite une bonne journée.
Au revoir. Le ministre de la Santé, Christian Dubé.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Maintenant, Radio-Canada publie des chiffres ce matin. J'avoue que ça fait sursauter un peu concernant l'aide médicale à mourir. On nous dit en gros que au Québec, là, il y a 7 % des décès qui découlent de l'aide médicale à mourir. Ce qui voudrait dire que si la tendance est vraie, là, que 5 000 personnes vont demander puis obtenir l'aide médicale à mourir et que ça ferait du Québec l'un des endroits dans le monde où cette pratique est de plus en plus implantée, ça devancerait les Pays-Bas qui sont pourtant, là, c'est un pays, la Belgique aussi, pays précurseur. J'en parle avec Dr. Georges L'Espérance qui est le président de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité. Dr. L'Espérance, bonjour.
Oui, bonjour M. Arcand, merci de l'invitation.
Bienvenue. Est-ce que vous observez cette tendance à la hausse du nombre de cas?
Ben, à l'échelle individuelle, c'est difficile de l'observer parce que, évidemment, nous avons chacun un certain nombre de cas qui nous sont demandés ou donnés. Les chiffres qui sont sortis, je comprends que c'est une projection parce que les chiffres du dernier rapport, c'était de 5 %. Maintenant, les décès sont évalués du mois d'avril au mois de mars. Donc, peut-être que le docteur Bureau à la Commission des soins de fin de vie peut évaluer des chiffres qui se tourne autour de 7 %, mais pour le moment, on n'en a pas d'idée. Ce sont des chiffres de prédiction, si je puis dire.
OK. Est-ce que, même si on voit que le nombre de cas quand même augmente, que des gens se tournent vers l'aide médicale à mourir, est-ce que ça veut dire pour autant que les obstacles, les délais, les retards, les refus de collaboration se sont aplanis ou c'est encore réel, selon vous?
Ben, il y a certaines difficultés d'accès qui sont encore présentes, je dirais. Maintenant, pour le reste, ma réflexion à moi, c'est que, bon, s'il y a 7 % des gens qui demandent l'aide médicale à mourir, et alors, serais-je tenté de dire, si les gens au Québec, pour eux, c'est une façon de mourir dans la dignité et non pas de drainer leur agonie ou leur problématique pathologique pendant très longtemps et de se sentir détérioré, ben pourquoi pas. Moi, j'ai pas de problème avec le fait qu'il y a plus de gens qui le demandent, en autant, bien évidemment, qu'ils rencontrent tous les critères.
Est-ce que vous pensez aussi, parce qu'il y a eu ce rapport au fédéral hier, là, qui n'est pas un rapport unanime, mais quand même, là, qui propose d'élargir à des mineurs, oui, que l'on dit matures, d'élargir, oui, à des gens, par exemple, qui souffrent de dépression profonde, grave, oui, depuis des années. Vous pensez quoi de ça?
Ben, les problématiques de santé mentale, si on prend le rapport du groupe d'experts, d'abord, ça va être extrêmement rare. Il y a beaucoup de balises qui sont mises en plus des critères actuels, premièrement. En ce qui concerne les mineurs matures, c'est vraiment très, très, très minime comme chiffre. Et ça ne touche que les mineurs qui seraient dans la classe 1, qu'on appelle, là, catégorie 1, c'est-à-dire où la mort naturelle est raisonnablement prévisible. Donc, essentiellement des cancers.
Et l'autre cas, ça concerne aussi les maladies comme l'Alzheimer, maladies dégénératives.
Oui.
Puis là, il y a le projet de loi qui s'en vient à Québec aujourd'hui. On sait pas vers quelle direction ça va prendre, mais c'est un peu le réflexe des gens de dire, là, voici ce que je veux. Un jour, quand j'aurai atteint malheureusement tel stade de la maladie, c'est pas vrai que je veux dépérir, puis c'est pas vrai que je veux... C'est un choix que je fais de mourir, comme on dit, dans la dignité.
Oui, tout à fait.
Pensez-vous que ça va se faire?
Pour les gens qui ont des maladies dégénératives, oui, ça c'est certain que ça va se faire parce que c'est ce que la population demande, c'est ce que plusieurs médecins aussi demandent. Maintenant, écoutez, actuellement, les patients qui ont une pathologie neurodégénérative cognitive ont le droit d'obtenir l'aide médicale à mourir, sauf qu'ils perdent quelques mois, voire une année ou deux d'une vie encore intéressante. Donc, ça ne fait que déplacer le problème un peu plus tard, tout simplement. Pas le problème, mais la solution, si vous voulez.
Merci, Dr. L'Espérance.
Ça me fait plaisir, Richard Kahn. Bonne journée.
Bonne journée. Docteur Georges L'Espérance, qui est le président de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute.
On va parler maintenant du télétravail. Il y a le Centre universitaire de recherche en analyse des organisations Cyrano qui rend public les résultats d'une recherche. Est-ce que les employés qui travaillent à distance sont des employés fidèles? Est-ce qu'ils sont productifs? Est-ce que les gens veulent rester le plus possible à la maison? Comment on les compare avec ceux et celles qui vont travailler au bureau? Sylvie Saint-Onge est avec nous. C'est la chercheuse principale. Madame Saint-Onge, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
Première question. Quand je travaille à la maison, d'après ce que vous voyez dans l'analyse de votre recherche, là, est-ce que les gens consacrent autant d'heures au travail, puis est-ce qu'ils sont loyaux à l'employeur?
En soi, d'abord, j'aimerais dire que la recherche est menée avec Ali Béjaoui, qui est co-directeur également, et Félix Ballesteros, qui est professeur à l'Université Laval, et Ingrid Peigné de Cyrano. Écoutez, ce que je vais vous donner, c'est la particularité de notre étude, elle est longitudinale. Alors, ce qu'on a fait, les résultats qu'on a présentés publiquement hier, c'est des résultats qui ont été colligés par questionnaire à l'été dernier. Donc, c'est une photo de l'été dernier. Le deuxième questionnaire, parce que c'est une série de trois questionnaires qui va s'étendre sur un an et demi, alors va être distribué au mois de mars. On va être plus affirmatif après le questionnaire du mois de mars.
Mais mettons, si vous me disiez ce que vous avez vu jusqu'à maintenant.
Oui, à l'été, c'est vrai, effectivement. Ce qui ressort, c'est que donc nous, c'est une étude qui a été menée auprès de 9 entreprises, 10 000 employés ont répondu. Là-dessus, seulement 10 % travaillaient 100 % sur les lieux de travail, ce qui est quand même intéressant, là, parce qu'on ne contactait pas seulement ceux qui travaillaient à distance, mais on a un échantillon de gens qui travaillent 100 % en présentiel. Et on leur demandait aux gens qui travaillaient à distance sur quelle modalité ils travaillaient. Est-ce que c'était une journée à distance, deux jours, trois ou quatre jours ou 100 % Ce qui ressort de notre étude, c'est tous ceux qui travaillent à distance, 50 % l'été dernier travaillaient trois ou quatre jours par semaine à distance. La concentration était plutôt là. Et ceux qui sont concentrés dans le trois ou quatre jours,
Madame Saint-Onge, vous êtes en train de me perdre avec la méthodologie. Moi, je veux juste, savoir, est-ce qu'ils travaillent bien beaucoup d'heures? Je comprends que c'est préliminaire, oui. Mais juste savoir comme un portrait de ce que vous avez vu.
D'accord. Et ce qui ressort comme portrait, ceux qui travaillent trois ou quatre jours par semaine et ou totalement cinq jours à distance se montrent plus positifs tant au niveau de la productivité, le travail qu'ils peuvent faire à l'intérieur d'une heure, le nombre d'heures de travail par jour. Ils se montrent aussi plus engagés au travail. Ils se montrent également plus engagés envers leur employeur, plus satisfaits. En comparaison avec ceux qui sont 100 % présentiels, et aussi l'écart est souvent beaucoup plus grand par rapport à ceux qui font deux jours par semaine à distance. C'est comme si plus on est à distance, ce qui va contre à contre-sens, des fois, on aurait tendance, on disait les gens qui vont travailler plus à distance vont être moins engagés vis-à-vis leur employeur. La photo qu'on a prise l'été dernier montre plutôt l'inverse, que plus on est à distance, plus on a une perception positive de notre productivité, de notre performance, de l'appui qu'on reçoit de nos collègues, de l'entreprise, et plus on est satisfait de notre modalité de travail.
Est-ce que les gens veulent retourner le plus possible travailler en présentiel, donc au bureau, ou si les gens, d'après vous, souhaitent le plus possible rester à distance?
On n'a pas posé la question directement, là, mais d'où ce que ça montre, la photo de l'été dernier,
oui.
C'est que la plupart des employés qui travaillaient à distance étaient trois jours et plus, et se disait, nos répondants étaient plutôt concentrés dans les trois jours et plus à distance, donc plus que la moitié du temps, ils le passaient à la maison. Et ces gens-là, peut-être, répondaient plus à l'enquête, mais se montrent beaucoup plus positifs. Donc, on peut penser que dans la mesure où l'employeur leur permet, ils sont encore libres de le faire, ils vont continuer. Mais peut-être, ce qu'on a vu à l'automne, c'est que certains employeurs ont aussi forcé un retour au bureau obligatoire de deux jours et peut-être trois jours. Alors nous, ce qui sera intéressant, c'est que ces mêmes personnes-là, on va voir l'évolution de leur attitude au travail selon l'évolution qu'ils ont fait par choix ou imposée par leur employeur.
Merci beaucoup. Bonne journée à vous, Mme Saint-Onge.
D'accord, parfait.
Alors, Sylvie Saint-Onge, pardon, est la chercheuse principale de cette étude sur le travail à domicile, le travail à distance par rapport au travail en présentiel.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.